I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et aujourd'hui, c'est cool. C'est cool parce que tout ça, en fait, ça a été très compliqué. Mais j'ai compris. J'ai mieux compris qui j'étais, en fait. J'ai mieux compris comment je fonctionne. Je sais que dans certaines situations, ça va pas aller. Je dis beaucoup plus facilement non qu'avant.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussion et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot.
On est donc avec Maxime. Salut Maxime.
Salut.
Comment ça va ?
Super, ça va très bien et toi ?
Ça va, merci beaucoup. Tu m'as envoyé un mail suite à une annonce que j'ai fait sur mon compte en disant j'aimerais bien parler de santé mentale chez les mecs. C'est un sujet qu'on a abordé en filigrane en fait tout au long d'histoire de mecs et avant ça dans le Boys Club, mais on n'avait jamais vraiment consacré un épisode complet au sujet. Et tu m'as raconté assez rapidement ton parcours thérapeutique, si je puis dire. Et je me suis dit, bah, let's go Maxime, faisons donc ça. Et yes. Donc, bah, merci beaucoup de venir partager ça. J'imagine que tu sais à quel point c'est rare d'entendre des mecs parler de santé mentale.
Bah, c'est certain. Et surtout, moi, quand j'ai commencé à avoir ces expériences, je me suis rendu compte à quel point on n'était pas renseigné. Là, j'ai l'impression que ces dernières années, on en parle de plus en plus, surtout la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte à ces sujets. Mais c'est vrai que même il y a 5-6 ans, c'était encore pas trop connu. Enfin, oui, bien sûr, on peut trouver des choses sur Internet, voilà. Mais voilà. Et du coup, ça me fait plaisir. Là, je suis ravi de voir qu'on en parle de plus en plus et que des gens comme toi, voilà. Mettre en lumière aussi ces sujets, c'est chouette.
T'as 29 ans, c'est ça ?
Ouais.
Ok.
Bientôt 30, ok.
Ouais. C'est compliqué pour toi le passage à la trentaine ?
Non, trop pas. Non, pas du tout. En plus, je suis sûr que ça va être trop bien la trentaine. Non, je dis ça, mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre de passer une dizaine, quoi.
Je crois que la trentaine est mieux que la vingtaine.
Mais je pense que...
Mais ça dépend des choix que t'as fait à 20 ans.
Mais en fait, moi, je me suis conditionné. C'est dommage, d'ailleurs, parce que... Bon, il s'est passé plein de trucs. On va en parler dans ma vingtaine. Et j'ai toujours dit, d'ailleurs, à mes potes, la trentaine, c'est pour moi. Elle est pour moi, la trentaine, tu vois. Et du coup, peut-être que je me suis conditionné à ce que la vingtaine se passe mal. Je ne sais pas. Mais ouais, on se connaît mieux. À 30 ans, on se connaît mieux. On a déjà aussi construit un environnement plus à soi, et j'imagine que c'est mieux. Tout le monde dit la quarantaine c'est le feu, mais je pense que la trentaine c'est pareil.
Ouais. Écoute-moi, de ce que j'aperçois de la quarantaine, parce que je suis pas encore tout à fait à la moitié, c'est que vraiment c'est le feu. Mais encore une fois, ça dépend de ce que t'as mis en place à 30 ans aussi, je crois. Mais est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Ouais, bien sûr. Je m'appelle Maxime. J'ai 29 ans, comme tu l'as dit. Et puis, moi, je suis éditeur vidéo, monteur, motion designer. Mais j'ai pas toujours fait ça. Pendant près de 10 ans, j'ai fait du spectacle. Voilà, où j'étais danseur, chanteur, choriste, comédien, interprète. Et voilà.
T'as fait des études donc artistiques, c'est ça,
pour en arriver là ? Ouais. Bah déjà j'ai commencé à 4 ans en fait. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. Donc voilà, je me suis jamais arrêté. Et à 17 ans, j'ai dit J'ai dit à ma mère, bon, là, c'est l'heure. Il est l'heure, en fait. Je vais partir.
De
et,
chez toi.
Ouais. Et pourtant, ça se passait très bien chez moi. Enfin, avec ma mère, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais partir. J'étais à Tours. J'habitais à Tours. Et voilà, du coup, je suis rentré dans une école de danse à Paris, à l'Académie internationale de la danse, qui est voilà, à Paris. Et ouais, et de là, tout s'est enchaîné.
C'est une école réputée, j'imagine, vu la façon dont tu l'as dit. Enfin, je
ah
connais
bon
pas, mais
ah, non, c'est juste le nom de l'école.
Ok, d'accord.
Mais enfin, l'idée, quoi. L'idée. Okay. Mais l'idée, je me suis dit que ça parlerait peut-être pas. Ça veut peut-être rien dire, quoi. Donc non. Enfin, il y a des écoles, il y a d'autres écoles très bien. Mais ouais. Mais en tout cas, cette école m'a permis de me lancer, en tout cas.
Ok. Bon, on va reparler, j'imagine, de ton parcours, parce qu'à mon avis, ton parcours de santé mentale va aussi.
Bah, tout est lié.
Voilà.
Ouais.
Mais avant ça, bon, si t'écoutes un peu le podcast, tu connais, mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est Maxime, c'est quoi pour toi être un mec?
quand tu m'as appelé, je me suis dit, parce que, en fait, je t'ai répondu très, très vite sur le. J'ai vu ta story, voilà, instinctivement, je t'ai écrit, j'ai pas réfléchi. Et quand tu m'as appelé, donc trop content, vas-y, let's go, on en parle. Et après, je me suis dit, attends, il faut que je commence à réfléchir à des trucs à dire parce que, et notamment cette question. Et je t'avoue que j'y ai pensé, genre pendant une semaine et il n'y a pas de réponse qui est venue, vraiment. Il n'y a pas vraiment de réponse claire parce que, enfin, il y a plein de trucs, mais rien de clair. Et en fait, je pense, j'en suis venu à la conclusion que je répondrais la même chose si tu me demandais c'est quoi être une femme, je pense. Parce que je pense qu'être un mec, être un homme, peu importe, en fait, c'est juste être une personne qui cherche à donner du sens aux choses, à sa vie, et qui essaie de construire quelque chose de bien, j'espère en tout cas, et probablement, pourquoi pas aussi laisser une empreinte, enfin... Je le vois plus comme un... Parce que oui, il y a des différences hommes-femmes, c'est clair, mais on les connaît, mais j'ai plus... Voilà, je le vois d'une manière un peu plus générale, et je crois que c'est juste ouais, être une personne qui cherche à donner du sens à sa vie.
Mais on est bien d'accord que toi, en tant que mec, t'as pas été éduqué de la même façon que si t'avais été une
non,
fille, par exemple.
Non, certainement pas. Non, bien sûr.
Surtout qu'en plus, j'imagine que t'as d'autant plus... évoluer dans un milieu artistique où et de la danse où j'imagine il n'y avait pas c'était pas du foot quoi tu vois
c'est pour ça
t'étais entouré d'énormément de femmes j'imagine
ouais toujours et toujours et d'ailleurs ça a été un grand truc de en fait j'ai dû réapprendre à avoir des relations avec tu vois des ça paraît exagéré de ouf,
mais
en
non,
fait...
non, non, non. Enfin, arrête de te juger. Je suis pas.
Non, non, non.
Dis mais... ce qui se passe.
En fait, effectivement, j'ai toujours grandi avec, enfin voilà, la danse avec des filles, voilà, au collège, lycée, ça, j'avais que des amis IES, presque, quasiment, et je pense que. Et voilà et du coup j'ai pas senti forcément voilà j'ai évolué dans un monde de femmes effectivement et du coup c'est pour ça que je peux pas donner une vraie réponse genre enfin je suis pas
mais il y a pas de vraie réponse c'est ta réponse
non,
à toi qui
sûr,
est intéressante je te demande pas alors on est aujourd'hui avec Maxime afin qu'il nous donne la réponse
la vraie
universelle réponse. À cette question que tous les mecs se posent. C'est quoi pour toi être un mec? Non, tu vois, mais en fait, je trouve ça d'autant plus intéressant que tu sèches là-dessus que j'imagine qu'à un moment donné, dans ta vie, dans ton parcours, dans ta vie de gamin adolescent même, tu vois, qui évolue dans un milieu avec que des meufs, etc., t'as dû devoir te définir d'une manière ou d'une autre, de façon peut-être différente par rapport à tes potes, tu vois, à tes amis IES, comme tu dis.
Ouais, c'est clair. Et
je t'asticote un petit peu parce que, en fait, je sens que t'es en train d'esquiver un peu la question.
Ah ouais, non
mais
pas
de,
du tout.
Enfin, tu vois, très simplement, okay, hein, tu vois, okay, mais je okay. me dis, ok, Maxime, donne-moi le vrai truc qu'il y a derrière, s'il te plaît.
en fait, non, je t'assure que je cherche pas à esquiver la question.
Ça me va.
Ouais. Non, effectivement, donc j'évolue dans un monde de femmes et j'ai pas l'habitude d'être entouré de mecs, et c'est vrai que de toute façon je me définis comme étant homo clairement, mais du coup j'ai vraiment des codes.
Mais tu dis ça comme si ça coulait de source. Moi je le sais pas. On en a pas parlé.
Ok. Ouais, c'est vrai. En fait j'ai toujours l'impression qu'on le sait, que c'est une évidence.
Mais d'où?
Parce que ça a toujours été comme ça.
Okay.
Ça a toujours été le cas depuis tout petit, et c'est pour ça que j'ai eu longtemps un rapport compliqué avec les mecs, parce que depuis tout petit forcément il y avait ce truc de Maxime il est gay, Maxime tu vois, à la cour de récré, des trucs comme ça. C'est pour ça que je me suis un peu distancé de, tu vois,
ouais,
de tout ça.
Merci de me le dire. Parce que, tu vois, moi, franchement, c'est pas par rapport à ton mail et à ta tête que je me suis dit, OK, Maxime, il est gay, tu vois. À aucun moment, ouais, je suis parti de ce postulat.
Ouais, c'est vrai. J'avoue, c'est, mais du coup, je pars toujours du principe que c'est évident. Même pour ma famille, enfin, pour tout le monde, enfin, ça a toujours été genre un truc hyper évident.
Mais ça, je comprends, mais donc, tu vois, on se connaît pas, toi et moi.
Bien sûr.
Et l'audience, encore moins, parce qu'ils te voient même pas, tu vois. Donc, il y a même pas ce truc de, OK, Maxime, il est stylé. Enfin, tu vois, en plus, le cliché, tu vois, du mec gay. Pardon pour ça.
T'inquiète. Ouais.
Et non, mais coup, merci, parce que ça définit aussi forcément, comme tu le dis, ton rapport au mec. Et tu vois, t'es pas le premier mec gay qu'on a interviewé dans ce podcast et qui raconte à quel point ils ont eu des problèmes avec les mecs, parce qu'en fait, il y a cette homophobie latente chez les mecs qui existe, chez les mecs hétéros, chez les mecs même pas d'ailleurs forcément. Tous hétéros, hein. Il y a des gamins, qui sont aussi plus jeunes, gays, dont refoulés, en tout cas, qui décident de pas se l'avouer, etc., et qui sont souvent horribles même avec les gamins qui sont un peu plus, on va dire, ouverts à ce sujet, quoi. Donc c'est trop bien d'en parler.
Ouais.
Ça a été dur, donc, en fait, pour toi, c'est ça, tu t'es fait bolos.
En fait, ça a pas été. En fait, moi, je l'ai toujours su, tu vois. Je l'ai toujours su. J'ai grandi avec ça. Je me suis même jamais posé la question de est-ce que j'aime les filles, tu vois. C'était genre clair dès le départ. Dès 6 ans, je peux te dire que je le savais déjà, tu vois.
Tu fantasmais plutôt. Enfin, tes premiers émois, c'était plutôt sur des mecs, sur des filles, quoi.
Ouais, sur Angel de la série Buffy, carrément.
Ah
et
voilà. Ah génial, merci.
voilà. Mais du coup, enfin, on me faisait bien sentir qu'il y avait un problème, genre, tu vois, alors qu'en vrai, il y en avait pas, mais, et du coup, voilà, il y a vraiment une cassure, à ce niveau-là, plus jeune. Maintenant, j'ai réparé ce truc-là parce que j'ai rencontré plein de mecs hétéros avec qui, je me suis lié d'amitié ou avec qui je peux travailler ou, enfin, voilà, il n'y a pas de souci, mais longtemps j'ai appréhendé ce rapport et voilà, et je reviens à ta question de départ, et c'est pour ça que j'arrive pas à forcément répondre à qu'est-ce que c'est être un mec, parce que je pense à peut-être que je pourrais te dire être un mec c'est aujourd'hui être une personne qui va peut-être enfin le rôle d'un mec aujourd'hui c'est peut-être d'éviter de répéter des schémas, enfin un schéma patriarcal, tu vois, peut-être que ça peut être ça, être un mec aujourd'hui.
Mais donne-moi ta définition à toi, tu vois, plutôt que d'aller chercher dans qu'est-ce que ça serait la société. C'est quoi pour toi aujourd'hui d'être Maxime, qui est, j'imagine que tu es genre mec, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu vois ce que je veux dire? De revenir à toi.
Ouais, ok. Revenir à moi. J'ai peut-être pris la question effectivement avec un peu trop de.
C'est pour ça que je te disais que j'avais un peu l'impression que tu l'évitais, mais en fait, quand tu creuses un petit peu le sujet, je comprends pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi c'est une question délicate pour toi, mais c'est aussi pour moi ce qui fait le sel de ce podcast, de ces entretiens qu'on a ensemble, c'est que c'est tellement compliqué pour les mecs de venir définir eux-mêmes ce que ça veut dire qu'être un mec.
Mais c'est dur.
Et pour eux, tu vois, et souvent, et c'est pas un reproche, tu vois, mais souvent, les gars, ils esquivent un peu et ils cherchent des façons un peu détournées, tu vois, de venir répondre à la question, alors qu'en fait, je leur demande qu'est-ce que c'est pour toi, tu vois.
Ouais, pour moi, ça veut juste dire, ça veut juste dire être. Pff, Moi, mon goal, c'est vraiment juste de... Personnellement, ma mission de vie, en tout cas, c'est d'être la personne la plus inclusive, la plus... la plus inspirante possible. Et je dis ça sans... tu vois...
T'as le droit.
Ouais. Mais... ouais, la plus inspirante possible et être un vrai une vraie écoute pour mon entourage, tu vois, c'est un peu mes goals et je dirais qu'être un mec c'est juste chercher qui on est, voilà, qui on est vraiment et aller vers ce qui nous fait du bien et faire du bien autour de soi, quoi, tout simplement, je crois que.
Merci.
Ok, on cuttera jusqu'à ce moment-là. Quand tu poses la question.
Non. Pardon, mais je plaisante. Non, mais je sais, mais je vois. Tu comprends à quel point les 10 premières minutes de l'interview, elles sont hyper intéressantes. Parce que déjà, tu me dis que t'es homo, tu vois, et qu'en fait, comme si ça paraissait normal pour toi. Et rien que ça, c'est tellement génial, tu vois. Je trouve que on en est, tu vois, aussi. Je trouve ça génial qu'en 2021.
J'ai pas. Ouais.
Voilà, tu vois. T'as pas besoin de le cacher ou peu importe. Hein, je renvoie les gens. Je sais pas si t'as écouté cet épisode dans l'histoire de Daron, d'un mec qui a 74 ans et qui s'est caché toute sa vie et qui là depuis 5 ans vit en couple avec un gars qui a genre 22-23 ans.
Histoire de fou, mais je vais aller écouter ça. Non, je l'ai pas écouté.
Et qui en fait qui découvre tout simplement. La vie de mec homo en fait au 21e siècle, là où il s'est caché pendant des décennies, quoi, tu vois, tout simplement. Donc ouais, je mettrai le lien dans les notes du podcast si ça vous intéresse, parce que franchement cet épisode il est assez foufou. Bref, tout ça pour dire, c'est pas pour faire la promo de mon truc, mais je trouve que c'est hyper intéressant les 10 premières minutes et la façon dont on tourne un peu autour du pot avant de venir parler de toi. Et merci de te livrer en fait, parce que ça fait aussi partie du jeu. Les gens le savent pas forcément, mais en plus on est à distance, donc ça biaise un peu le truc.
Peut-être.
Normalement, je suis dans le canapé. On aurait pris un petit café ensemble. On aurait un peu brisé la glace, tu vois. Et c'est le genre de truc qui est un peu plus compliqué à faire quand on est à distance. Mais merci beaucoup. Pour revenir au sujet qui nous intéresse et au sujet de la santé mentale, tu me disais que, en fait, alors, je lis ton mail, hein, tu vois, mais encore une fois, tu dis, pendant 10 ans, j'ai évolué dans l'univers du spectacle vivant, ouais. Et j'en étais très heureux, du moins c'est ce que je pensais. Au fil des années, un changement s'est opéré dans ma tête, et j'ai vécu l'amère expérience de l'anxiété généralisée, jusqu'au point où mon cerveau a dit « stop », en majuscule. Comment un mec comme moi, si joyeux et si énergique, a pu en arriver là? Mes problèmes de santé mentale ont pendant des années dicté mes choix et j'ai clairement subi la situation. Pour me relever, il m'a fallu apprendre qui je suis vraiment, apprivoiser mes peurs et opérer des changements à 180 degrés. Ça voilà. Pose le truc. Dit,
fin du podcast, merci de nous avoir écoutés. Ça peut paraître dramatique écrit comme ça, mais c'est la vérité, mais c'est vrai.
Donc tu racontais que tu fais de la danse,
ouais.
Danse, chant, c'est ça?
Ouais. Et voilà. Et du coup, je me suis retrouvé sur des comédies musicales et du cabaret, et voilà, des trucs comme ça. Et c'était trop cool. C'était trop bien. Ouais.
Et t'as fait ça de tes 10,
enfin donc... professionnellement de 17 à 28.
Okay. T'as tout plaqué il y a un an, quoi.
En fait, j'ai 27, 28. J'ai vraiment arrêté fin 2019. En fait, je savais déjà avant que je voulais arrêter. Mais c'est difficile. C'est difficile de se détacher de quelque chose que tu connais depuis tant d'années. Et puis, j'ai toujours connu que ça. Et j'ai toujours voulu faire que ça. En plus, plus ou moins, tu vois, depuis tout petit. Et c'était clair dans ma tête déjà.
Okay.
Donc voilà, mais c'est accumulé tout un tas de choses qui ont fait que finalement c'est devenu plus du tout fun.
Ok.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que déjà j'ai une question à te poser, mais tout à l'heure tu me parlais de ta mère.
Ouais.
Et où est-ce que ton père, il est quelque part dans ta vie?
Il était quelque part dans ma vie. Mon père, il est décédé il y a presque 3 ans. Dans quelques semaines. Et ma mère, par contre, ma mère est très présente. Mon frère aussi, ma sœur, mais.
Ok. Voilà. Petit frère, petite sœur, c'est ça?
Petite sœur, grand frère.
Ok. D'accord. J'imagine que le décès de ton papa n'est sans doute pas pour rien dans ce changement de vie, quoi, tu vois.
Ouais. Ouais, bah, bien sûr. Mmh. Bien sûr, c'est lié. Et c'est fou parce que, du coup, je suis passé par... Après, c'est pas ce qui a...
C'est pas ce qui a été le déclencheur.
Non. Okay. Ça a été quelque chose qui s'est ajouté de très, très important. Je minimise pas du tout ce qui s'est passé, au contraire, mais en vrai de vrai, ma décision était déjà prise avant, et des changements c'était déjà.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai opéré avant.
Ok.
Mais effectivement, ça a été encore autre chose, cette histoire.
D'accord.
Si tu veux, on y reviendra.
Ouais. Est-ce que tu veux me raconter ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ok, il y a un truc qui va pas. Parce que donc j'imagine que pendant 10 ans, tu fais ce métier et que t'es heureux.
En fait, ouais. Parce que encore une fois, c'est ce que j'ai toujours voulu.
C'est un rêve de gamin, quoi. J'imagine.
Ouais, mais complètement. Parce que et surtout, c'est quelque chose qu'on m'a longtemps on m'a longtemps fait penser que c'était impossible. En fait, on m'a longtemps fait croire que c'était impossible. Je me suis retrouvé dans des collèges, je reviens un petit peu avant tout ça, où en fait voilà, on me disait que non mais Maxime, la danse, c'est que pour une élite, c'est que pour les meilleurs. Est-ce que toi tu fais partie des meilleurs? Peut-être pas, tu vois. Et c'est trop dur, c'est trop précaire, etc.
T'as grandi en province, c'est ça?
À Tours, ouais.
À Tours.
Ouais, à Tours. Enfin, près de.
C'est souvent une question d'entourage. Ouais. Je dis ça parce que c'est souvent une question de milieu et de voilà.
Et pourtant,
j'imagine que si tu grandis à Paris,
ouais,
c'est peut-être moins inaccessible.
Peut-être. Il y a peut-être ça. Et je parle pas. Là, je parle pas de ma famille proche. Je parle pas de ma mère. Ma mère m'a toujours encouragé, même si elle aurait bien aimé que à ce moment-là, je sois à fond dans les cours et tout. Mais ça n'a jamais été un problème à ce niveau-là. C'était plus en dehors de chez moi. Parce que j'étais dans des collèges souvent privés d'ailleurs et catholiques. Alors que ma famille pas du tout, mais ma mère s'était dit que voilà, je serais sûrement un meilleur élève en étant dans ces établissements. Spoiler, ça n'a pas fonctionné. Mais bref, et c'est vrai que ouais, je me suis retrouvé vraiment face à un monde qui me disait non quoi. Non, ça va pas être possible. Alors, c'est compliqué parce que genre t'es homo, c'est compliqué parce que tu veux faire la danse, hein, mais Maxime, voilà. Et du coup, très vite, j'ai développé un espèce de. Puis après, il s'est passé d'autres trucs au niveau de, tu vois, de la famille, des histoires, de machin. Et très vite, je me suis retrouvé avec un sentiment très très fort de un besoin d'y arriver, un besoin de me prouver à moi-même que c'est possible, et puis
prouver aux autres aussi peut-être, non?
Mais surtout prouver aux autres, prouver à mon père, tu vois, enfin genre ça c'était un gros truc que j'ai réalisé mais bien plus tard qu'en fait tout ça je l'ai fait.
Ton père était plutôt contre, c'est ça, ta mère qui t'encourageait, ton père était plutôt à te retenir?
Un petit peu, oui, en fait, oui, parce que bon, après, je vivais avec ma mère parce qu'ils sont séparés, j'avais 6 ans, et donc voilà, j'étais surtout avec ma mère, mais mon père, effectivement, lui, il voyait plus, voilà, il voulait que je fasse un truc en pharma, tu vois, enfin, pas du tout mon délire, mais bon.
Un vrai métier, entre guillemets.
Ouais, un vrai métier.
Ok.
Mais je peux comprendre, voilà, il s'inquiétait aussi, il voulait que, voilà, bon, ok.
Bien sûr.
Mais voilà, et déjà en fait il s'est passé des micro trucs qui ont fait que je me suis senti blessé par tout ça, parce que voilà, on me laissait pas m'exprimer, être qui je voulais vraiment. Enfin, ça paraît dramatique, encore une fois, en vrai évidemment il y a des histoires pires que la mienne, mais la vérité c'est que voilà, quand t'es jeune, quand t'es homo et que t'as un rêve et qu'on te dit que c'est non, bah voilà, c'est pas cool.
C'est pas... Je me permets juste de te dire, parce que je crois que c'est vraiment un truc,
ouais,
qui arrive beaucoup chez les mecs, et d'autant plus quand t'arrives en thérapie, et je crois que d'une manière générale c'est assez humain, mais t'as toujours à un moment donné le réflexe de te dire, et moi ça a été mon cas quand je suis rentré en thérapie, de me dire en fait il y a pire ailleurs, tu vois, il y a des gens qui ont pour qui c'est vachement plus dur d'une manière générale, et en fait il y a toujours pire. Et j'ai juste envie de dire aux mecs qui nous écoutent, peut-être que t'as l'impression que il y a pire et qu'en fait de ce fait là t'as pas forcément besoin de te plaindre ou d'être malheureux dans ta situation, mais c'est pas du tout une raison, parce qu'en fait c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que forcément ça va mieux pour toi, quoi. Voilà, je me permettais de te dire ça, parce que je crois que c'est un truc très masculin en plus.
C'est vrai. Et ce que tu dis, je me le dis, et je le dis souvent à quand je parle avec des gens qui me racontent des trucs et qui sont là, ah, mais j'arrête pas de me plaindre. Et non, en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi. Chacun à notre niveau, ouais, je comprends. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais arrêter de me justifier.
Non, mais en fait, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir, enfin, tu vois, de pouvoir avoir ce genre de... ce genre de discussion aussi. Pardon, excuse-moi.
Non, j'allais dire que ça va recommencer, sache-le, dans l'épisode, ça recommencera. je serai comme ça, de toute façon.
Ok. Donc, le feu à l'intérieur de toi pour, ouais, te dire, ok, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire pour me prouver à moi et aussi aux autres que je veux réussir, quoi.
Voilà. Et du coup, je me suis vraiment conditionné, presque persuadé que c'était ça et rien d'autre, tu vois. Et en fait, donc j'arrive sur Paris, je rentre dans cette école, l'AID, et là, du coup, tout va assez vite parce que je commence à passer des auditions et puis je suis pris sur un premier spectacle et puis après j'enchaîne, etc. Et en fait, je me rends compte petit à petit que c'est vrai que c'est dur. Et en fait, la difficulté de tout ça, c'est pas tellement le fait de danser, je veux dire l'acte en lui-même, c'est pas ça qui est le plus difficile finalement, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est d'être en fait seul dans une ville où tu connais personne, c'est de devoir tout d'un coup gérer ton loyer, gérer tout un tas de trucs que en fait on t'apprend pas forcément quand t'es ado ou quoi, et t'arrives dans la vie adulte, t'es là, ah ok, bon bah let's go. Mais surtout le vrai truc, c'est que en fait quand t'es artiste freelance ou que voilà tu passes des auditions, t'es jugé en permanence en fait, et là c'est le vrai nœud du problème, enfin premier nœud du problème pour moi, je pense, c'est que c'était un peu trop violent, je pense, pour moi. C'est-à-dire que voilà, t'arrives dans une pièce, t'as tout un panel de gens qui te regardent s'ils sont pas sur leur fiche, qui t'écoutent s'ils sont pas en train de se dire un truc sur le candidat d'avant. Et c'est très... voilà, il y a un truc très très bizarre de constamment être... devoir justement prouver et devoir voilà, et hey, genre c'est moi qu'il faut prendre, je suis là, et tout ce processus en fait il est hyper violent parce qu'on te dit quand même souvent non, même s'il y a des oui, il y a aussi des non, et c'est normal et ça fait partie du jeu. Mais et au départ je le vivais très bien, il y avait pas de souci. Après quelques années en fait ce processus m'a un peu épuisé, je dois avouer, parce que aussi du coup je suis rentré dans un système où je cherchais à plaire, et je pense que c'est un truc que j'en ai parlé avec d'autres artistes, tu vois, et c'est un truc qui revient souvent. Du coup on cherche à plaire, on cherche à devenir un truc, tu vois, qui est pas forcément nous, mais qu'est-ce qu'on attend de nous. Et je pense que je me suis un peu perdu là-dedans en fait, alors que je suis arrivé, je savais, j'avais beaucoup plus d'énergie, je savais presque plus qui j'étais en arrivant et ce que je voulais, et en fait je me suis perdu en chemin, presque.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait que, En fait, qu'est-ce qui a changé entre-temps, entre le moment où tu arrives et tu sais quitter, et en fait, bah, j'imagine que tu vas faire le métier que tu as envie de faire depuis que tu es tout jeune, quoi. Et ce moment où tu te dis, ok, non, en fait, je suis plus qui je suis. Qu'est-ce qui a changé en toi?
En fait, ce qui a changé, un jour, ça a vraiment, j'ai un peu basculé parce que, en fait, j'ai fait une première crise d'angoisse. Si tu veux, j'étais chez moi et là, je me suis mis à faire une crise d'angoisse très, 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 très violente. Et bon, en réalité, en fait, j'étais en train de fumer. Tu vois, j'étais en train de fumer un joint.
Ouais.
Et là, je commence à plus trop sentir mes jambes, plus trop sentir mes bras et tout. Je me dis, what? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me dis, bon, ça a été, enfin, ce que je consomme, ça a dû être coupé à un truc très mauvais. Peut-être que, voilà, enfin, grosse panique. Je me dis, ça m'était jamais arrivé, tu vois. Alors, je fumais de temps en temps, mais jamais j'ai eu ça. Bref, donc j'appelle un médecin, je dis voilà ce qui m'arrive, j'ai ces symptômes, tac tac, tachycardie, j'ai la vision qui se trouble, etc. À ce moment-là, je sais pas que c'est une crise d'angoisse, enfin que c'est plutôt un bad trip, disons, dans ce cas-là, mais je comprends pas, je me dis qu'il y a un truc très 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 mauvais, donc je vais à l'hôpital, enfin ils me conseillent d'aller à l'hôpital, donc je vais à l'hôpital de Neuilly, et ils me prennent tout de suite, bon non, c'est rien en fait, tout va bien, c'est juste, voilà. Ok. Je me dis, ok, c'est pas grave. Voilà,
ils te disent que c'est une crise d'angoisse ou...
En fait, ils me disent, et j'ai vu sur leur fiche, il y avait écrit, entre parenthèses, je sais pas si j'étais censé le voir, mais ils avaient écrit « bad trip », entre parenthèses, okay. Tu vois, genre. Mais ils me disent, voilà, il y a aucun souci, on a fait des checks, enfin voilà, c'est... Voilà, juste faites attention, recommencez pas. Et... Donc j'étais là, bon, ok, c'est pas grave, c'est un événement isolé, je rentre chez moi et on oublie, quoi, et on passe à autre chose.
T'as refumé de la weed après ça?
Jamais. une fois, et je me suis reparti dans une crise pas possible, donc ouais. Ça a été terminé. En tirant deux taf. Hein. Mm. Donc non, c'était vraiment fini. Et bref, je rentre chez moi, événement isolé, ok. Et là, plusieurs semaines se passent, genre 2-3 semaines, je vais à Londres chez un pote, et on passe une soirée, ok, on fume pas, on boit pas beaucoup, enfin, il y a rien. Et le lendemain de cette soirée, je me lève, on va faire des courses, truc tout bête, et là j'ai la vision qui voilà, je flanche complètement, mais complètement, et là remême symptôme, repareil, et mais pire encore, un truc qui m'a couché complètement, je pouvais pas me lever, en fait j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à manger, je faisais que trembler, enfin c'était assez intense, même lui, enfin il était vraiment très choqué, enfin c'est assez ça peut être assez impressionnant, bien même sûr. Si on sait au final qu'une crise d'angoisse, on le sait que bah il va rien se passer de grave parce que c'est qu'une alerte en fait. Enfin c'est ton corps qui se met en alerte. Ce sont des symptômes qui peuvent être très puissants. Voilà, selon la situation, selon la personne, ça se manifeste de manière assez différente. Mais voilà. Et en fait, je réalise à ce moment-là que c'était pas qu'un événement isolé. Et du coup, je rentre plus tôt que prévu. Je prends un covoit et je rentre chez moi. Et là, je vais voir un médecin et je dis bon voilà, en fait, ce qui se passe. Et là, il me dit en fait, voilà, vous faites de l'anxiété, etc. Et parce qu'en fait, suite à cet événement, ça se reproduisait tous les jours. Alors que tous les jours, alors que je faisais rien. Et ça pouvait, de manière plus ou moins violente, mais ça pouvait être genre 5 fois, 6 fois par jour, des moments de crise hyper intenses. Et en fait, à ce moment-là, je comprenais pas, et je vais voir un médecin, et il me dit, il faut commencer un traitement, pour que vous guérissiez ça, mais pour vous aider, etc. Moi, je pensais que c'était un peu la solution miracle. En fait, j'étais là, ok, je vais le faire. Du coup, j'avais jamais eu de traitement comme ça assez important. Alors, voilà.
Qui t'a filé quoi, des antidépresseurs ou
et un anxiolytique en fait, okay. Et que je devais prendre pour. Enfin, au départ, je devais prendre les deux pour parce que genre l'antidépresseur, c'est un truc qui met du temps. Enfin, ton corps met du temps, à l'accepter. Et il faut le il faut l'équilibrer avec voilà, un anxiolytique pour pas que c'est l'effet inverse souhaité au départ. Bref, c'est tout un truc. Je ne suis pas médecin, je vous invite à...
Oui, oui, à consulter les professionnels.
Ouais, hein, voilà. Et puis tout ça n'est que mon expérience avec tout ça. Mais ouais, et du coup, je me dis, bon, ok, effectivement, ça m'a aidé, ça a été mieux. Ok, l'été passe, je suis là, bon, bah, c'est bon, ça y est, je suis guéri. Oui, Maxime, tu es guéri. et du coup...
Médicaments, c'est une béquille.
En fait, voilà. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Je l'ai compris plus tard que ça allait m'aider à peut-être aller de l'avant au départ. Mais ça ne résoudra pas le problème de fond. Bref, donc je repars sur Paris. Ok, j'ai la niaque, c'est bon, ça va aller. Là, je fais un contrat. J'ai recommencé à Disney. C'était à Disney. Et bref, je fais mon contrat trop bien, trop trop cool. Et à la fin de mon contrat, pareil, paf, rebelote. Je replonge dans un truc de tourbillon de... voilà, 4, 5, 6 fois par jour, je me mets à faire des grosses crises, je sais plus comment faire, mes amis ils savent pas trop comment m'aider parce que qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire?
Et t'es encore sous médoc là? Malgré les médocs, tu...
Alors non.
Ah, ok. À ce moment-là. Entre-temps, t'as arrêté.
Non, ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai fait ça quelques mois, ça allait mieux. Et quand ça allait mieux, je me suis dit, bah, c'est bon. Voilà, j'en ai plus besoin. Let's go. Bon. J'ai peut-être arrêté un peu vite. certainement, j'ai pas trop fait attention à ça, j'avoue. Donc rebelote, etc. Angoisse, etc. Et du coup, là je me dis bon, ok, là il y a un vrai souci en fait. Là il faut poser les cartes et il faut réfléchir. Qu'est-ce qui va pas? Il faut aller chercher vraiment. Tu vois, il faut aller chercher le problème de fond parce que en fait c'est pas juste en surface. Moi je pensais que c'était vraiment un truc qui pouvait arriver dans la vie. En plus j'en avais parlé avec mon père et il m'avait dit oui, moi aussi j'ai une période comme ça dans ma vingtaine, mais c'est passé et puis voilà.
Ouais. Mais ton papa t'a pas dit, alors tu sais, moi je suis allé en thérapie et en fait je suis allé voir un psy.
Mais parce
et...
que je crois qu'il l'a pas fait. Je
bah oui, bien sûr. Non mais je sais qu'il l'a pas fait. C'était une vanne. Okay. Bien sûr qu'il l'a pas fait, parce qu'en fait, je sais pas, après, je connais pas la vie de ton père, mais bien sûr. Et j'allais justement te demander, qu'est-ce qui fait que pendant ce temps-là, t'as toutes ces crises d'angoisse, etc., et que tu te dis pas, tiens, peut-être que la solution, ça serait d'aller voir une personne et de rentrer dans une forme de thérapie, quoi.
Alors, j'y ai pensé, mais j'ai naïvement peut-être cru que j'allais juste m'en sortir tout seul. Et j'avoue que j'avais tellement d'objectifs, j'étais tellement sur ma lancée, et j'étais sur une bonne lancée.
Professionnellement, tu veux dire?
Ouais. Et du coup, et en plus, j'avais des propositions, et du coup, je voulais pas m'arrêter, en fait. Je voulais pas m'arrêter,
Oui, t'étais en train de, ça marchait, ton plan. C'est-à-dire que,
complètement. Voilà. C'est-à-dire que, ok, j'ai, je suis arrivé sur Paris assez rapidement, ok, prouver aux autres, c'est bon, check, ça c'est bon, prouver à moi-même que je peux le faire, check, ok, je peux
prouver
le faire.
Prouver à papa?
Check, gros check, parce qu'en plus il était venu me voir sur un spectacle, enfin, c'était dans une belle salle et j'étais très fier qu'il vienne me voir dans cette salle et je me suis dit, ok, Maxime, full win, t'es sur ta lancée, c'est bon, rien ne peut t'arrêter. Lol. ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, en fait, je lui en ai parlé. Et effectivement, je pense que lui, il ne l'a pas fait. Je pense qu'effectivement, ça a dû passer pour lui. Mais peut-être, j'aurais jamais le fin mot de cette histoire. En tout cas, ça m'a rassuré. Alors aussi, le fait qu'il me dise que bah, lui aussi, en fait, il y a eu un passage dans sa vie. Et je me suis dit, ah bon, ok. Du coup, voilà, c'est un passage. Ça peut arriver à d'autres gens. Et puis, on passe à autre chose. Du coup, je me retrouve à ce moment-là en train de me dire bon, ok, donc là on est après le contrat Disney, on est nouvelle année où là ça recommence et je me dis bon, ok. Et là, effectivement, je me dis je sais déjà que je vais pas rester sur Paris, je le sais déjà. Donc il faut que je mette en place des trucs, pour continuer à faire ce que j'aime, mais de façon safe. Parce qu'en fait, ce qui me bloquait, c'était de me sentir aussi... je me sentais enfermé, en fait. Je me sentais enfermé dans un truc qui n'était pas moi. Je me sentais... j'avais l'impression d'être qu'un interprète de la vision de quelqu'un d'autre, de la chorégraphie d'un autre, de la mise en scène de quelqu'un, tu vois, et de plus m'exprimer moi. En fait, j'étais pour rappel
un pantin, quoi.
Ouais, un petit peu, mais enfin un interprète, ce qui est très bien, ce qui est très bien. C'était juste pas pour moi, en fait, voilà. C'est tout. Donc, si on revient juste à ce qui s'est passé avant, quand je suis arrivé, j'étais en mode, il faut que je dise des choses, il faut que je sois là, tu vois, besoin de me montrer et de prouver. Et au final, je me retrouve à présenter les autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quelque part.
Ouais, je comprends.
Bref. Et voilà. Et en fait, après, je commence une thérapie, donc. Et je me rends compte que...
Qu'est-ce qui t'incite à passer le cap ?
Tout simplement le fait que je sois retombé dans un truc hyper angoissant. Et j'y avais déjà pensé la première fois, sauf que je m'étais dit, bon, nanana, ça va passer. Et là, je me suis dit, bon, non, en fait, c'est maintenant. Et puis, ma famille aussi m'a incité à le faire, notamment ma mère, surtout, qui... Enfin, c'est très dur dans ces cas-là pour la famille ou l'entourage, parce que... Tu sais pas quoi faire. Enfin, ils savent pas quoi faire. Et ça, je l'ai compris plus tard. En fait, ils pouvaient rien faire. Et moi, je leur en voulais un peu. Enfin, j'en voulais un petit peu à ma mère au fond de moi, même si je lui en voulais pas vraiment. Mais il y avait un truc de, mais pourquoi est-ce qu'elle peut pas m'aider?
Pourquoi tu m'aides pas, maman? Parce que tu es désormais un adulte.
Déjà, ça, c'est sûr. Et puis surtout, en plus, elle faisait énormément de choses pour m'aider, en vrai. Donc, c'était pas très juste, de même si je le pensais pas très très fort, je le pensais un petit peu quand même. Et
puis il y a que toi qui peux t'aider.
Et voilà, et j'en suis venu à cette conclusion que, mais en fait, Maxime, si tu veux avancer, si tu veux faire des choses, il faut que tu t'aies envie de le faire, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu fasses le choix. Et je pense que là, c'est la clé de tout. Je pense qu'il faut faire le choix de céder. Je pense qu'il faut il faut prendre cette décision. Il faut prendre cette décision, et tant que tu prends pas cette décision, il se passera rien, ou tu vas stagner pour tout, mais et notamment pour ce genre de choses. Le fait de dépasser son angoisse, etc. Enfin, personne va, tu vois. Tu peux avoir des proches qui t'écoutent, tu peux avoir des proches qui t'accueillent si ça va pas. Enfin, voilà. Mais voilà, il se passera rien si toi, au fond de toi, tu décides pas d'aller de l'avant. Et du coup, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis dit, OK, allons de l'avant. J'ai passé mon bac parce que j'étais parti du lycée.
Ah, yes.
Ouais. Et je me suis dit, bon, allez, c'est le moment du bac. Là, je crois que c'est...
T'as quel âge?
À ce moment-là, j'ai 27 ans. Okay. 26 quand je passe mon bac. 26. Et du coup, voilà, je passe mon bac, je passe mon permis, parce que je me dis, potentiellement, je vais être soit en province, soit en région parisienne pour aller bosser, mais il faut que je sois dans un environnement calme. Et c'est là que je décide plein de trucs. En fait, je décide d'arrêter de boire de l'alcool. Je bois plus de café. Je bois plus de théine non plus. Les sodas, on évite trop le sucre. J'évite de manger tel aliment parce que ça peut me rendre anxieux. Il faut que je sois dans tel cadre de vie. Je commence à mettre en place des trucs un peu poussés pour rendre l'expérience de aller sur Paris et bosser le plus relax possible. Parce qu'à ce moment-là, je continue quand même d'aller faire des spectacles à droite à gauche, tu vois. Je m'accroche, le mec s'accroche.
C'est pas évident de renoncer à ton projet de toute ta vie, quoi.
Mais
tu
c'est
vois.
Chaud. Mais c'est super dur parce que.
Qu'est-ce que tu fais après?
Mais qu'est-ce que je fais après? Et surtout, pourquoi tout ça a un sens? Ma mission, si tu veux, alors, on fait une parenthèse mission. Ma mission de base, c'était non seulement de prouver blablabla, on en a parlé, mais c'était surtout de pouvoir donner aux gens, d'une manière ou d'une autre, j'avais besoin de donner quelque chose aux gens qui les aident. Comme moi, petit, vraiment tout petit, ce qui m'a inspiré d'ailleurs ce qui m'a amené à ça, j'ai été énormément influencé par certains artistes, par certains vidéoclips, par des prestations scéniques, même des séries télé, enfin des choses qui m'ont
Angèle quoi, dans Buffy.
Angèle, voilà, lui c'était un crush, mais pour le coup, c'est vrai que Je rigole, mais je rigole pas. Hein. C'est une vraie anecdote. Hein.
Je me doute.
Hein, tu te doutes. Oui.
Ah oui.
Bref. Et donc, j'avais vraiment besoin de redonner ce truc-là. Ok, j'ai très vite compris que il fallait que je fasse ça. Voilà, proposer une création, quelque chose qui va inspirer les gens, qui va les aider à se sentir mieux, qui va être un refuge même pour eux. Une béquille. C'est toi qui disais ça, je crois, en début de podcast, une espèce de béquille. Et en fait, c'est ça. C'est le truc, voilà. C'est un peu le goal de ma vie, hein, je t'avoue. Bref. Et donc, du coup, je me suis dit, si j'ai pas ça, qu'est-ce que j'ai à offrir, en fait? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Bah, et donc, je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Et voilà. Et je me suis mis à tester plein de trucs et à me replonger dans une thérapie, enfin vraiment à fond, avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à comprendre quelque chose, notamment que tout ça, toute la danse, tout ça, finalement c'était qu'un chemin vers le but ultime, qui était d'inspirer ou du moins d'aider les gens. Et moi, je croyais que la danse c'était la passion, en fait. Et en fait, non, c'était pas ça la passion. La danse, c'était un instrument vers ce truc-là. Bref, mais il m'a fallu du temps pour le comprendre et l'accepter. Et c'est ce qui m'a aidé à passer à autre chose, qui fait qu'aujourd'hui, je fais de l'édition vidéo, tu vois. Et en fait, j'ai toujours la même passion, j'ai toujours le même but, mais plus de la même manière. Plus du tout de la même manière.
T'es derrière la caméra, déjà.
En fait, ouais.
Tu vois, t'es plus devant.
Non, 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 exactement. Et le fait d'accepter ça et de le faire, ça m'a déjà enlevé un poids énorme. Parce que plus la pression de l'image, parce que du coup t'as plus besoin de faire, t'as plus besoin de ressembler à un truc, ou du coup il y avait parce que oui, il y avait tout un truc d'image aussi, en fait. Il y avait tout un truc de, en plus moi pour le coup j'ai tendance à prendre du poids assez vite, donc il fallait que je fasse tout le temps attention, plein de trucs, voilà, il faut que tes dents elles soient bien, il faut que tes cheveux soient bien. Alors bon, du coup on est mal parce que je n'en ai plus.
Hein. Pour les gens, pour l'audio guide, tu t'es rasé la tête.
Ouais, du coup assez rapidement d'ailleurs.
T'es chauve? T'es en train de devenir chauve?
Je crois que oui. Hein. Je crois qu'on est là-dessus. Hein. Me semble-t-il.
Comment tu l'as vécu?
Franchement, très bien. Je le savais, ouais. Puisque mon père a perdu ses cheveux très jeune. Ah, yes. Mon frère a perdu ses cheveux très jeune. Donc, je savais que j'étais le suivant sur la liste. Donc, pas de souci.
Okay.
Bref. Et en fait, voilà, de faire cette thérapie, je me suis rendu compte de plein de choses, mais qui s'étaient passées avant, qui avaient eu un poids énorme sur moi. Et en fait, on en revient au truc d'échappatoire, de béquille, de ce qui m'avait aidé petit. Ça m'a aidé à bloquer des trucs, mais à pas les gérer, en fait, à pas les gérer. Et du coup, j'ai longtemps fait ça, tu vois, je me suis longtemps...
Tu t'es mis en carapace. En
ouais.
Mode de, voilà.
Ouais. Et en fait, à un moment donné, c'est trop. C'est juste trop pour une personne. Il faut gérer ses émotions. Il faut les laisser nous traverser et les exprimer. Voilà, c'est hyper important.
C'est fou quand même parce que, excuse-moi, ouais, je te coupe, mais vas-y. Que tu aies bloqué ces émotions alors que... T'étais sur un chemin artistique, si tu veux. Je me dis, waouh, comment t'as fait?
En fait, j'étais vraiment en mode warrior et j'étais en mode. Et en fait, j'ai dans la danse, j'ai une énergie assez forte, assez puissante, et je pense que c'est là que j'exprimais, pas forcément dans l'histoire que je raconte ou. Les mots que j'utilise, mais dans l'énergie que je donne.
Okay.
J'ai une énergie très incisive, presque violente, et en fait c'est clairement toute cette violence que je relâche, c'est clairement ça. Sauf que c'est pas très sain, c'est pas tout à fait sain, et du coup forcément à un moment donné ça suffit plus et il faut gérer des traumatismes passés.
C'est quoi les traumatismes? Enfin, si c'est pas trop rentré dans ta vie privée pour le coup, mais c'est quoi les traumatismes que t'as dû gérer et qui t'ont... Enfin, quand tu disais quand j'étais gamin, je me suis mis en mode carapace et tout.
Bah parce que déjà, comme j'ai rapidement évoqué, il y avait quand même des histoires de famille, tu vois, assez lourdes. Pour le coup, je vais pas rentrer dans le détail de okay. ça, mais parce qu'en plus ça n'engage pas que moi, donc voilà. Ouais. Et c'est tellement violent que j'étais un, enfin, en plus on a vraiment voulu me protéger de plein de trucs et du coup on m'a aussi un peu Mais j'ai quand même absorbé. J'ai quand même absorbé, j'ai vu, j'ai entendu des trucs. Et du coup, ouais. Et du
Très peu étonnant, hein. Non, mais tu sais, les parents qui veulent protéger les gamins, et en fait, les gamins, c'est pas des robots, quoi. Tu vois, tu peux pas leur couper l'ouïe, la vue et l'intégralité des sens. Ils perçoivent quand même des choses, quoi. Tu vois.
C'est certain. Après, je comprends pourquoi, et en l'occurrence, pourquoi ma mère l'a fait. Et je pense qu'à sa place, j'aurais certainement voulu faire la même chose. Et c'est normal. Et en plus, ça a fait quand même que j'ai passé une enfance assez cool, finalement. Enfin, ça m'a quand même épargné plein de trucs horribles. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, voilà. Mais en tout cas, j'ai quand même traversé des trucs beaucoup plus facilement grâce à ça. Bref, donc il y a ce côté-là. Il y a le fait aussi qu'il a fallu que je fasse un peu face au fait que je sois vachement bousculé un peu dans ma jeunesse, parce que forcément homo, roux, alors oui, ça ne se voit plus, mais
ouais, t'es roux. Voilà. Okay. Oui, t'as vraiment la totale.
Ouais, pardon. Tu vois, efféminé, qui fait de la danse, enfin, tu vois, genre le truc, quoi, le package, on me l'a donné, on a dit, voilà, ce sera toi. Et du coup, c'est vrai que j'ai quand même pris cher, on va pas se mentir, même si j'avais un groupe d'amis quand même soudé, et du coup, ça m'a, enfin, voilà, j'étais pas seul, mais j'ai pris cher. Et même, ne serait-ce que pour mon coming out, enfin, ça a été tout un truc, parce qu'on a un peu, j'ai un peu dû le faire par la force des choses, parce qu'on a un peu volé ce moment, enfin, c'est un peu un truc bizarre, enfin, en plus c'était des adultes, enfin, un truc trop bizarre.
Si on peut dire aux gens qui écoutent, ouais. Le coming out, c'est un truc très privé.
Ouais.
Laissez les gens gérer le truc comme ils veulent.
C'est clair.
Comme tu dis, leur volez pas ce moment, quoi.
Tu veux, on peut en parler deux secondes du coming out.
Si tu veux,
on en parle.
C'est toi qui dis. Hein.
Parce que
c'est ton podcast. Hein.
Pour le coup. En fait, mon coming out, contexte. On est en 2005, genre j'ai 13 ans et je suis en quatrième. Enfin voilà, c'est très jeune, hein, 13 ans, c'est très jeune quand même. Mais bon, j'ai 13 ans, je suis en quatrième. Mais bon, comme je te l'ai dit, je le sais déjà depuis longtemps. Donc c'est pour moi, c'est pas du tout un chemin difficile. Mais voilà. Et en fait, j'étais donc dans cette école privée et à l'internat, carrément. Donc du lundi au vendredi, tu vois, j'étais dans une bulle. Bref, et en gros, on s'écrivait avec un garçon en permanence de... Après, enfin le soir, on avait une heure de permanence obligatoire, bref. Et on s'écrivait, tu vois, et c'était assez évident qu'il se passait un truc, tu vois. Il y avait rien de trash dans ce qu'on se disait. Il y avait aucun, même ne serait-ce que, il y avait pas de mots à caractère sexuel. Enfin, c'était vraiment,
c'est un amour adolescent, en fait, tu vois.
Bah, c'était, voilà, on se cherchait un peu. Mm. On cherchait un peu, bref. Il y a eu plusieurs fois, on s'est écrit et tout. Et voilà. Et un soir, on s'écrit, très bien, je range le mot, on n'en parle plus. Quelques jours passent, je me retrouve en cours de français. Et là, donc contrôle, la prof, bon, bah, sortez une feuille, vous laissez vos trucs, vos trousses dans votre sac, et puis voilà. Moi, en sortant ma feuille, si tu veux, ça fait remonter toute une pile de choses qui traînaient dans mon sac, dont ce fameux mot que j'avais gardé et qui tombe par terre. Hmm. Ouais. Et là, donc la prof voit ça, donc elle se dit forcément, bah, ok, Maxime, il a fait sa petite anti-sèche et je l'ai cramé, quoi. Et moi, je savais que c'était pas ça, mais bon, du coup, la prof le voit, elle vient, elle ramasse le mot. Je me suis dit, oh mon Dieu, bon, elle va avoir le mot, mais c'est pas grave, elle va voir que c'est pas du tout une anti-sèche. Soit elle me redonne le mot, soit elle le jette, et puis on n'en parle plus, quoi. Sauf que non, elle lit le mot, alors pas à voix haute, elle me regarde avec, je dirais, dégoût. Vraiment un regard... Ça m'a vraiment marqué. C'était,
oui, j'imagine.
Je me suis dit, oh mon Dieu, c'était dur, c'était un moment dur. Bref, et elle me dit, ça va aller dans le bureau du proviseur.
Oh lolo.
Et là, je me dis, non, c'est chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont appeler ma mère? Ça veut dire que elle va comprendre? Ça veut dire que... Et là, je vrille dans ma tête et je me dis, mais non, mais... En fait, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Genre, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Heureusement, à l'époque, j'avais quand même un téléphone portable. Même si on est en 2005, j'avais un portable. Et là, je me dis, ben non, en fait, il faut que je les devance. Il faut que je les devance parce que c'est, ils ont pas à faire ça à ma place. En fait, c'est à moi de, c'est à moi de le faire, c'est à moi de le dire. Bref. Et du coup, à la pause d'après, je me suis posé dans un couloir et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit. Et voilà. Et bon, elle m'a dit qu'elle le savait.
J'imagine, oui, c'est ça, j'allais dire, j'imagine que ta mère est pas tombée de sa chaise.
Non, 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 elle m'a dit, ah oui, je crois que le premier truc qu'elle m'a dit, c'est bon, j'avais compris. Et voilà, elle m'a dit, j'avais compris et c'est, enfin, il y a aucun, c'est même pas un débat, c'est pas un sujet. Voilà, ça change absolument rien de rien. Donc voilà. Mais c'était dur de le dire, même si je le savais, même si elle le savait. Enfin, c'est un moment difficile et je me suis, en fait, ça m'a blessé qu'il me vole ce truc. Alors, j'ai essayé de les devancer, mais c'était pas le moment pour moi de le faire. C'était pas le moment.
Tu t'es retrouvé chez le proviseur après et tout, qui t'a.
Mais oui.
Mais enfin.
Mais oui. En fait, ils ont convoqué ma mère. Carrément, elle a été convoquée. Et ils lui ont dit que c'était pas normal d'avoir ce genre de comportement et du coup ma mère elle a pris ma défense hein. elle s'est pas du tout laissée faire ou elle a pas du tout été dans leur sens oui peut-être que c'est vrai pas du tout au contraire c'est même parti loin parce qu'en fait ils avaient déjà eu d'autres réflexions parce que une fois j'étais venu avec un t-shirt rose et puis ils avaient fait tout un truc.
Rappelons que c'était un collège cadeau bah oui.
Et
un
oui.
privé
et oui et oui et voilà et donc c'est un peu l'histoire de mon coming out.
OK. Trop cool que ta mère ait pris ta défense ceci dit.
Mais grave, mais j'ai trop de chance.
Et ton père vis-à-vis de tout ça ?
En fait, je l'ai appelé juste après ma mère.
OK.
Je lui ai dit et il m'a dit "Ah, OK." Enfin vraiment, c'était pas pareil, il me dit "OK, ben ça change rien pour moi. Mm. Je t'aime toujours autant et puis c'est tout quoi. Mm. On s'en fiche."
OK.
Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. C'est pas avec ma famille le problème d'être homo ou pas homo, ouais, c'était vraiment
le reste ouais. du monde un peu comme beaucoup de ouais. de jeunes homos. Je sais pas trop si ça change ces temps-ci.
J'ai envie de croire que ça change quand même.
J'espère aussi, même si bien sûr il continue à y avoir de la merde quoi, tu vois. Mais
c'est clair. Mais je suis content, tu vois, quand je vois de plus en plus d'homos affirmés dans les médias, dans des ouais. trucs.
Puis tu vois, j'ai une fille qui était l'année passée au collège et qui me disait qu'en fait l'homosexualité, la bisexualité, en fait n'est même plus. Enfin, tu vois, il y a même plus d'étiquette. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans ce truc de, en fait, t'aimes quitter. En tout cas, dans sa classe, elle était aussi dans un collège privé pour le coup, tu vois. Où il y a, c'est même plus une question quoi. Donc après, je sais pas si c'est un microcosme ou pas, mais tu vois, il y a un peu ce truc de bah, en gros, on aime qui on est, quoi. On aime qui on a envie d'aimer, puis voilà quoi. Ce qui est bon, ça me fait dire que le monde va dans le bon sens quoi, tu vois.
Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau, il y a encore du chemin, bien beaucoup sûr. De chemin, mais effectivement,
il continue à y avoir des violences intolérables envers la communauté homosexuelle et donc mais c'est sûr que c'est pas tout beau quoi, tu vois, mais
non, mais on avance.
J'aime bien voir le verre à moitié plein.
Mais je suis d'accord avec toi et j'ai cette sensation en tout cas que voilà, bon voilà, peut-être que c'est trop optimiste, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y crois. En tout cas, j'y crois.
Comment ça se passe depuis alors ton...
Et ouais.
Quel est le bout de ton chemin ?
En fait, donc après cette fameuse deuxième vague, on va dire, là, donc je commence à mettre en place des choses, comme je t'ai dit, voilà. Et je sens qu'il y a une vraie évolution, mais il faut que je casse ce truc de spectacle parce que c'est plus pour moi, parce que j'ai plus la même. Puis il y a eu aussi une toute nouvelle génération qui arrive, qui comme moi à l'époque vraiment à la rage, tu vois. Et en fait j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie. Et c'est ok de pas vouloir, et c'est ok de changer, et c'est ok. Il faut pas. Il n'y a pas d'échec, en fait, c'est tout n'est qu'évolution. Et il faut juste l'accepter et il faut réussir à le voir et voilà. Et du coup, moi, j'avais commencé, si tu veux, l'édition vidéo, j'avais déjà commencé à l'époque parce que pour mes bandes démos, puis mes potes qui commençaient à me dire, ah, tu veux pas faire la mienne, tu veux pas faire ci, ça, etc. Mais même avant de partir sur Paris, je faisais déjà de l'édition audio et tout. Bref. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et quelles sont mes autres passions? Et ça, c'était numéro uno sur la liste, tu vois. Et du coup, j'ai développé ce truc-là. Et c'est devenu, c'est devenu c'est, bah déjà c'est devenu mon activité principale, mais c'est surtout devenu le truc qui m'a aidé à me relever en fait, et je pense que c'est la clé de tout, quel que soit, il faut retrouver tu vois, il faut retrouver la flamme, il faut retrouver c'est hyper important d'aller chercher non seulement de traiter les problèmes, c'est-à-dire d'en parler. Je pense que la thérapie c'est pas mal, peut-être que c'est pas pour tout le monde, en tout cas je pense que c'est quand même une, voilà, je pense que c'est une bonne solution. Voilà, j'avais repris des médicaments mais j'ai arrêté petit à petit avec mon médecin, où là vraiment on a fait un truc graduellement, c'est descendu, et ça fait là des années que j'en prends plus, et c'est ok, tu vois, il y a plus de soucis, je suis plus dans ce truc de dans cette spirale d'angoisse. Voilà, beaucoup d'exercices de respiration, et surtout bien gérer son cadre de vie, et comprendre ce qui fonctionne pour soi. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à m'échapper de cet état, et aujourd'hui en gros c'est ça la question, genre aujourd'hui comment je me sens, c'est un peu ça que tu me demandes. Et aujourd'hui c'est cool. C'est cool parce que tout ça en fait ça a été très compliqué, mais j'ai mieux compris qui j'étais en fait, j'ai mieux compris comment je fonctionne, surtout parce que ça c'est aussi la clé de beaucoup de choses. Je sais que dans certaines situations ça va pas aller, je sais que dans certains trucs, alors je dis beaucoup plus facilement non qu'avant, parce qu'avant je disais beaucoup oui, mais en fait voilà, il faut apprendre à dire non, et voilà, et aujourd'hui je kiffe ce que je fais, et ça m'a vraiment redonné une énergie folle, et voilà, et je travaille avec des créateurs trop cool que je kiffe, et c'est vraiment trop bien. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question.
Si. En fait, ça me touche vachement de voir que tu viens d'un endroit où vraiment t'as, je crois, on peut dire touché le fond, quoi, tu vois, en termes de santé mentale et tout, et que t'as réussi à te mettre petit à petit à te mettre dans ta vie d'après en fait, et de lâcher lâcher en fait ce rêve qui était un rêve de gamin et dans lequel tu te projetais, et qui finissait par devenir une histoire pour toi, qui est un peu une prison dorée, j'imagine, où bah tu finis par t'enfermer toi-même dans ce truc où tu t'es défini toute ta vie par ok, donc en fait j'ai envie d'être chanteur, danseur, etc. Et quand tu te rends compte que c'est finalement pas ce qui te correspond, ou en tout cas ce rêve là tu l'avais pour de mauvaises raisons, aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est trop cool. Et je vais me permettre de ressortir une métaphore, parce que peut-être que j'ai jamais sorti dans l'histoire de mec, je trouve, et je crois vraiment qu'en plus c'est un vrai truc pour les mecs, c'est compliqué de lâcher prise. Et en fait moi, donc j'ai vendu ma boîte il y a un an et demi maintenant, et en fait quelques mois avant de vendre, je suis tombé sur cette métaphore d'un mec qui s'appelle, je crois, David Lefrançois, dans une conférence. Et le mec raconte qu'en fait la vie c'est que d'aller de liane en liane, et que en fait pour réussir à lâcher ta liane d'avant, il faut avoir réussi à attraper ta liane d'après, parce que sinon tu te retrouves coincé comme un connard entre deux lianes en fait, si t'arrives pas à lâcher ta liane d'avant. Et en fait je trouve ça, enfin moi ça m'a vraiment aidé, cette métaphore, à comprendre ok, en fait donc pour lâcher ma liane d'avant, il faut que je trouve ma liane d'après. Et c'est très très dur, je dis pas que c'est hyper simple de la trouver, mais en fait une fois que t'as conscientisé ce truc là je trouve que c'est vachement plus simple de te dire ok, donc en fait effectivement elle est où ma liane d'après, et où est-ce que je vais la chercher. Et je crois que dans la vie on ne cherche que ce qu'on trouve d'une manière, on ne trouve que ce qu'on cherche, pardon, je le fais toujours, alors on trouve que ce qu'on cherche d'une manière générale. Et en fait ça aide vraiment à te dire ok, en fait elle est où ma liane d'après, parce que c'est sûr que si tu restes attaché toute ta vie à ta liane que t'avais avant, et en fait que t'as envie de quitter, c'est super dur de continuer dans cet élan là en fait. Et je trouve ça génial que t'aies réussi à trouver ta liane d'après, en te disant ok, bah c'est quoi les trucs qui me vont plus, l'image, etc. Bah, peut-être que je peux faire exactement la même chose, que je peux transmettre la même émotion par un autre média, quoi, et notamment le montage, quoi. Donc, c'est
mais,
trop bien.
Mais un vrai truc, c'est trop cool ce que tu viens de dire, là, je suis totalement d'accord. Un vrai truc qu'il faut, c'est se détacher, en fait, parce que il faut se détacher du regard des autres, parce que c'est ça qui joue beaucoup, en fait. Moi, ce qui a joué beaucoup, c'est le fait que j'ai toujours voulu ça. J'ai toujours dit que je voulais ça. Et tout le monde a toujours pensé que j'allais faire ça aussi, tu vois, parce que tellement je l'ai manifesté, tellement je voilà, c'était une évidence. Et du coup, mais comment les gens vont réagir en fait? Quelle est ma valeur finalement si j'ai pas ça? Est-ce que les gens vont reconnaître que je suis quelqu'un d'autre, enfin que je suis quelqu'un d'autre, que je suis quelqu'un en dehors de ça? Et pour soi-même aussi, est-ce que je suis quelqu'un d'autre? Je suis en dehors de ça. Voilà, il faut. Je pense que la clé de ça, c'est aussi de se détacher du regard des autres. C'est hyper important. Mais pas facile. Pas facile du tout. C'est chaud.
Merci beaucoup, Maxime. Franchement, c'était. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler?
Non.
Ouais.
En ce moment. On peut parler de mes projets.
Est-ce que s'il y a des gens qui veulent travailler avec toi en tant que monteur, ils peuvent te contacter quelque part?
Carrément. Vous pouvez me contacter sur Instagram, peut-être.
Ok.
Instagram, ouais. Maxime Le Couturier.
Je mettrai dans les notes. Hein, mettrai le lien si tu veux.
Écoute, c'est gentil. Mais en tout cas, juste pour conclure là-dessus, je suis vraiment content parce que je travaille avec des créateurs très très cool. Vraiment, je suis hyper heureux des créateurs comme Alexis Minkela de Tribu Indé, qui est vraiment un mec qui fait des trucs super,
ouais.
Et je suis très content. Je parle de ça parce que ça a été un truc important cette année pour moi qui m'a aussi aidé parce qu'il a fait un bootcamp qui m'a aidé à développer mon activité. Et voilà, c'est tout ça pour dire que voilà, il faut aussi aller chercher. Un peu
de l'aide.
En fait.
On peut, c'est pas grave.
Voilà, mais n'hésitez pas à aller chercher des choses nouvelles en fait. Plutôt c'est ça.
OK.
Voilà.
Merci Maxime.
Merci à toi
pour ton partage, c'était vraiment très touchant ton histoire.
Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.